Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Une conférence internationale sur la Libye à Paris en présence de plusieurs chefs d'État. Il s'agit d'encourager le processus électoral 10 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi. Le Conseil de sécurité s'est réuni pour examiner la crise des migrants entre la Biélorussie et l'Union européenne. Nous écouterons l'analyse de Patrick Le Yarrick, ancien directeur de l'Humanité. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre Luce, référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines, extrait dans ce journal. EDF annonce que l'électricité ne sera plus coupée dans les foyers qui n'ont pas payé leurs factures, y compris après la trêve hivernale. 2 traitements contre le Covid approuvés par l'Agence européenne pour le médicament. Enfin, nous évoquerons l'exposition Lumière du Liban qui se tient actuellement à l'Institut du Monde Arabe avec le collectionneur Claude Lemans. Paris accueille une réunion internationale sur la Libye. Parmi les participants, la vice-présidente américaine Kamala Harris, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, la première ministre tunisienne Najla Boudène ou encore le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. L'objectif du président Macron est de donner une ultime impulsion à l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye, un scrutin qui sera suivi 1 mois plus tard par les législatives. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier soir au sujet de la crise des migrants à la frontière de la Pologne. Les pays occidentaux accusent la Biélorussie de vouloir déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Au moins 2000 migrants vivant dans des conditions dramatiques ont été acheminés par le régime de Minsk par avion. Ils sont syriens, irakiens, palestiniens ou libanais notamment et ils espèrent rejoindre le territoire de l'Union européenne par la Pologne, mais aussi par la Lituanie et la Lettonie, un moyen de pression décidé par la Biélorussie en représailles aux sanctions instaurées par les Européens. Ancien directeur du journal L'Humanité, Patrick Le Yarrick, dénonce une situation inacceptable et inhumaine. On l'écoute.
D'abord, ce qui se passe là est l'inhumanité incarnée. Voilà des gens qui souffrent déjà beaucoup, qui fuient l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, donc qui fuient la guerre, la misère, la répression, qui sont utilisés aujourd'hui par des États pour faire pression dans le cadre d'un différend avec l'Union européenne. C'est totalement inacceptable. Aucun homme sensé ne peut accepter cela. Donc il faut arrêter de se servir des migrants, des malheureux, comme masse de manœuvre pour des questions de géopolitique continentale, voire mondiale.
Aujourd'hui, il faudrait que les États européens viennent en aide à ces migrants qui sont dans le froid, puisque les conditions météo sont très difficiles dans cette région.
Oui, il faudrait prendre des dispositions rapides maintenant, à la fois pour un dialogue avec la Russie et la Biélorussie sur ces problématiques, créer les conditions d'un accueil ou d'un lieu humain pour que ces migrants ne soient pas dans la situation de faim et de froid comme elles sont aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'Union, il faudrait une discussion sur les moyens de répartir les migrants dans chacun des pays, que chacun prenne sa part de la solidarité qui est aujourd'hui nécessaire. Mais ça ne suffira pas, c'est que il faut en même temps développer des initiatives de coopération pour permettre à ces gens de se défendre. Alors certes, ce n'est pas très facile, hein, les Afghans qui fuient aujourd'hui, c'est parce que ils ont faim dans leur pays où ils sont pourchassés. Les Irakiens, c'est exactement la même chose. Donc, il faut combiner à la fois solidarité ici et coopération, initiative diplomatique et coopérative avec ces États. Et en faisant pression sur certains gouvernements, notamment le gouvernement afghan, pour que les gens ils aient à la fois la liberté et de quoi manger.
Patrick Le Yarrick, ancien directeur de l'Humanité. Au Soudan, le général El Bourhan a nommé un nouveau conseil de souveraineté. Sont exclus de ce conseil les représentants du bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Le Soudan, où plusieurs ministres, manifestants et militants ont été arrêtés ces derniers jours. Une nouvelle manifestation est prévue samedi. En France, EDF va cesser de couper l'électricité des particuliers en cas d'impayé. Cette mesure sera valable toute l'année, non plus seulement durant la trêve hivernale. En remplacement à partir du 1er avril 2022, EDF imposera à ses clients une limitation de la puissance, ce qui permettra d'avoir accès à des usages essentiels tels que l'éclairage, le fonctionnement d'équipements de cuisine comme le réfrigérateur ou encore la recharge d'appareils électroniques. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre Luce, référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines. Il reviendra sur l'allocution d'Emmanuel Macron et son appel aux Français à faire la troisième dose du vaccin contre le Covid. On écoute un extrait de cette émission.
Effectivement, c'est ce qu'a annoncé le président de la République suite aux recommandations scientifiques sur le sujet. Il est important pour les personnes les plus fragiles de se faire vacciner une troisième fois, une troisième dose de vaccin, une dose de rappel, pour préserver en fait leur immunité, qui est quand même très importante avec la vaccination, puisque grâce à ce rappel, ils auront quand même 10 fois moins de chances d'être touchés gravement par le Covid. Donc c'est réellement une dose indispensable pour leur permettre de rester en bonne santé et de conserver la liberté que nous avons retrouvée depuis ce printemps.
Alors, lors de son précédent discours, Emmanuel Macron avait réussi à donner un coup d'accélérateur à la vaccination. C'est l'effet recherché aussi, cette fois, la campagne de la troisième dose?
Oui, c'est un appel à la responsabilité des Français qui, sont conscients de la gravité de la situation. Mais qui avait probablement besoin d'entendre aussi que ce rappel est nécessaire. C'est ce qu'a fait le président de la République hier, et on a vu, c'est un appel qui a déjà été entendu, puisque je crois que c'est l'ordre de 100 000 personnes qui ont pris des rendez-vous hier soir pour leur troisième dose.
Les seniors sont mis sous pression puisque leur passe sanitaire ne sera plus valide s'ils n'ont pas reçu cette troisième dose. Est-ce que cela ne crée pas une inégalité entre les Français?
Ce qui est très inégal, c'est la force avec laquelle la maladie frappe les personnes. Si ce sont les personnes de plus de 65 ans qui sont principalement concernées, c'est avant tout parce que ce sont elles qui sont le plus à risque. Le plus à risque de tomber malade, le plus à risque de tomber gravement malade. Elles ne sont pas mises sous pression par la campagne de rappel, elles sont mises sous pression par la gravité du Covid quand vous êtes un senior et que vous êtes malade. Il y a plus d'un mois qui est devant nous avant le renforcement de ce pass sanitaire. C'est un délai largement suffisant pour prendre rendez-vous, se faire vacciner. Maintenant, on sait très bien faire, avec les mois qui ont passé, on sait très bien qu'on pourra vacciner un très grand nombre de personnes dans le mois qui vient, et toutes les personnes de plus de 65 ans qui prendront des rendez-vous dans les jours à venir pourront se faire vacciner facilement.
Pierre Luce, référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines. Il est l'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h. Du nouveau pour le traitement du Covid-19, en plus des vaccins, des médicaments pourront être utilisés dans l'Union européenne. L'Agence européenne des médicaments approuve la mise sur le marché de 2 traitements par anticorps contre le Covid. Il s'agit du Ronaprev du laboratoire Roche et du Regdanvimab du sud-coréen Celltrion. Enfin, l'exposition Lumière du Liban se poursuit à l'Institut du Monde Arabe, une exposition qui rend hommage à la vitalité et à la résilience de la scène artistique libanaise. À l'origine de cette exposition, le collectionneur Claude Le Mans, qui a légué de nombreuses œuvres à l'Institut du Monde Arabe. Claude Le Mans.
Ce titre-là, je l'avais en tête depuis plusieurs années. Quand nous avions fait notre donation en 2018, j'avais déjà annoncé mon souhait que nous exposions, nous fassions un certain nombre d'expositions, entre autres Lumière du Liban, Algérie mon amour, etc. Et pour moi, évidemment, tous les artistes qui ont connu le Liban disent que la lumière du Liban est spéciale, elle est exceptionnelle. Mais moi, ce n'est pas cette lumière physique que j'avais en tête, mais plutôt que les lumières du Liban, ce sont les artistes, les créateurs, les inventeurs, les personnalité qui tout au long de son histoire, qui est chaotique, qui parfois elle est belle, comme à l'époque de l'âge d'or de Beyrouth, des années 50 à peu près 65-70, ou bien les périodes les plus difficiles, il est apparu au Liban une scène artistique et poétique et des gens de pensée, des gens aussi les Libanais sont connus pour leur esprit d'aventure, en ce sens que comme ils ne peuvent pas compter sur l'État, ils ont toujours compté sur eux-mêmes, ils ont pris des initiatives, ils ont pris des risques, et parfois ça a donné de très beaux résultats. Donc pour moi, Lumière du Liban au pluriel, ce sont principalement les artistes du Liban.
Alors, des artistes très connus figurent au catalogue de cette exposition, je pense à Etel Adnan, mais vous avez souhaité aussi faire connaître de jeunes artistes libanais.
Disons que l'Institut du Monde Arabe avait un musée, ils ont fait des achats dans les années 80, puis de très belles choses, puis ils ont arrêté. Et donc, lorsque moi j'ai lancé le projet après les explosions de Beyrouth, de faire trois initiatives. La première initiative, c'est l'exposition Lumière du Liban. La deuxième initiative, c'est de faire appel à des artistes du monde arabe pour qu'ils confient à notre fonds une œuvre intéressante. Et troisième initiative, un appel que j'ai lancé avec Jacques Lang et le musée de l'Institut aux jeunes artistes du Liban pour qu'ils nous proposent un projet. Nous avons reçu 130 candidatures qui décrivent ce qu'ils souhaitent faire avec des photos, et sur les 130, nous en avons choisi 11 finalement. Et parce que avant notre donation en 2018, l'Institut du Monde Arabe avait 47 œuvres d'artistes du Liban. 47 œuvres seulement. Avec notre donation, la collection du musée est passée à 509 œuvres du Liban. Et avec cette exposition Lumière du Liban, j'ai pris des contacts avec les artistes, avec les galeries, avec les héritiers de certains artistes, et j'étais tellement heureux que ça ait suscité un mouvement vraiment de un mouvement de soutien à cette scène artistique et culturelle libanaise qui était par terre depuis plusieurs années, mais surtout après l'explosion. Certains artistes n'avaient même plus d'argent pour acheter le matériel, les couleurs, les toiles, le papier, puisque ceux qui avaient de l'argent en devise était bloqué dans les banques, l'initiative que j'ai prise a soulevé vraiment beaucoup d'enthousiasme, et j'étais très très heureux. Notre fonds, parce que l'Institut du Monde Arabe n'a pas d'argent pour acheter ni pour faire des expositions temporaires, donc c'est notre fonds. Nous avons acheté des œuvres, et ou bien il y a des artistes qui ont offert une œuvre, parce que l'avantage que je leur proposais, c'était que toutes ces œuvres-là allait entrer dans les collections du musée. Le musée de Lima est un musée de France. Donc les œuvres deviennent inaliénables, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Et alors, donc je vous disais que à l'Institut, il y avait 47 œuvres du Liban. Ensuite, il y a eu, avec notre donation, 509 œuvres de deux générations. Et avec notre appel aux jeunes, avec les 11, puis un 12e artiste, c'est réservé aux jeunes qui ont entre 21 et 35 ans. Ce qui fait que nous avons dans cette exposition des artistes de trois générations. Les œuvres vont de 1950 à 2021.
Le collectionneur Claude Le Mans, l'exposition Lumière du Liban se poursuit à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 2 janvier. Cette édition est terminée à 13h30, le journal en arabe avec Mazen Hamoud. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.